écoutez Radio France Internationale, 11h du matin à Jérusalem, 10h ici à Paris.
Jeanne Bartoli.
Dans ce journal, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio entame une tournée au Moyen-Orient. Il s'entretient en ce moment avec Benjamin Netanyahou. Après Israël, il doit se rendre en Arabie Saoudite où il devrait prendre part à des discussions avec des négociateurs russes et ukrainiens. C'est ce qu'il a annoncé hier, précision dans ce journal. Dans ce journal également, le sommet de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf a été élu hier à la tête de la commission. Le sommet qui a été dominé par le conflit dans l'Est de la RDC pour cette première journée. Des hommages risqués en Russie aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ce matin sur la tombe d'Alexei Navalny un an jour pour jour après sa mort. Et puis en Turquie, le maire pro-kurde de la grande ville de Van, destitué et remplacé par un administrateur pour des accusations de terrorisme. Décision qui intervient en pleine négociation avec le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il s'entretient en ce moment même avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou alors que l'armée israélienne a mené ce matin une frappe à Gaza malgré le cessez-le-feu et dit avoir visé des individus armés. Le Hamas, lui, affirme que la frappe a coûté la vie à deux agents de police déployés pour sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire à l'est de Rafah. Marco Rubio est donc à Jérusalem alors que la trêve reste extrêmement fragile. Il devrait aborder avec Benjamin Netanyahou cette question de la trêve, mais aussi du plan de Donald Trump pour Gaza. Marco Rubio, qui était avant cela hier à la conférence sur la sécurité de Munich, où il a évoqué le dossier ukrainien et la poursuite de rencontres en vue de discussions de paix sur l'Ukraine. Précision, Pascal Thibault.
Une rencontre avec des hauts responsables américains, russes et ukrainiens pourrait avoir lieu dans les prochains jours en Arabie Saoudite. L'annonce a été faite à Washington après la confirmation d'un appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov. Un échange qui succède à celui qui a eu lieu cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Marco Rubio lui-même, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, doivent participer à cette rencontre en Arabie Saoudite. Les responsables américains tablent sur la participation du président ukrainien Zelensky. On ne sait pas encore qui représentera la Russie. Cette accélération du calendrier et des négociations à court terme sur l'Ukraine inquiète les Européens et ont dominé les débats à la conférence sur la sécurité de Munich. Volodymyr Zelensky a répété qu'aucune solution sans l'Ukraine, mais aussi sans l'Europe, ne pourrait être acceptée. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg a laissé entendre que les Européens ne seraient pas directement impliqués dans les négociations, mais qu'ils auraient leur mot à dire. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Les Européens qui s'inquiètent d'une solution en Ukraine qui ne les impliquerait pas, d'après la Pologne. Une rencontre aura lieu peut-être demain à Paris pour trouver une position commune entre chefs d'État et de gouvernement européens. Pour l'instant, l'Élysée n'a pas confirmé, mais parle de discussions en cours. En Russie, plusieurs centaines de personnes ont bravé ce matin les autorités pour se recueillir sur la tombe d'Alexei Navalny à Moscou, un an jour pour jour après le décès de l'opposant russe dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. L'Union européenne estime ce matin que Vladimir Poutine porte l'ultime responsabilité de la mort d'Alexei Navalny. Le chancelier allemand Olaf Scholz avait estimé un peu plus tôt ce matin que Poutine combattait brutalement la liberté et ses défenseurs. Dans l'actualité également, la première ministre congolaise Judith Suminwa qui alerte sur la situation humanitaire très précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Déclaration à l'agence France-Presse alors que le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur du sommet de l'Union africaine lors de la première journée hier, marquée notamment par la mise en garde d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, contre le risque d'escalade régionale. Au sommet de l'Union africaine, justement, les dirigeants se sont également mis d'accord pour la création d'une agence de notation panafricaine. Les agences occidentales considérées comme ayant des biais injustes conduisant à des notations faussées, les dirigeants souhaitent leur propre agence qui intègre des données et des indicateurs spécifiques au continent. L'AFCRA devrait donc être officiellement lancé en juin prochain, Charlotte Cosset.
Voir sa note fortement dégradée et être considéré comme un pays dit poubelle par l'agence Fitch a été la goutte d'eau pour le président éthiopien Taye Atke Selassie.
Malgré les progrès que nous avons réalisés, les agences de notation internationale présentent souvent une vision déformée et peu constructive de nos économies. Leurs évaluations sont imprévisibles et incohérentes. Ce manque d'objectivité dans la notation de nos économies a d'une part gravement entravé notre capacité à accéder accéder aux capitaux. Et d'autre part, cela limite notre capacité à nous intégrer dans le système financier mondial.
Des biais des agences de notation qui auraient fait perdre 75 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au continent, selon une étude citée par le président kényan William Ruto.
Une agence de notation africaine, selon moi, n'est pas seulement une alternative, c'est un impératif. Cette agence doit être crédible au niveau mondial, s'appuyer sur des données rigoureuses, répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. Nous ne ferons pas ce voyage seuls. Nous construirons des alliances fondées sur des valeurs communes de dignité, d'équité et de progrès.
Selon la même étude citée par William Ruto, la revalorisation d'un cran des notes africaines permettrait de débloquer 15 milliards de dollars d'investissement.
Charlotte Cossé est toujours au sommet de l'Union africaine. Hier, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf a été élu à la tête de la commission de l'UA, le sommet qui se poursuit aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi le Hezbollah libanais qui appelle le gouvernement à revenir sur sa décision d'interdire l'atterrissage d'avions iraniens à Beyrouth. Jeudi et vendredi, le Liban s'était opposé au vol vers Beyrouth de deux avions iraniens après avoir été contacté par les États-Unis qui l'ont informé qu'Israël risquait de frapper l'aéroport. Israël a accusé à plusieurs reprises le Hezbollah d'utiliser l'aéroport de Beyrouth pour acheminer des armes de l'Iran, ce que démentent le Hezbollah et les responsables libanais. En Turquie, un nouveau maire du parti pro-kurde DEM, troisième force au Parlement turc, a été démis de ses fonctions pour des accusations de terrorisme. Cette destitution du maire de la grande ville de Van, dans l'est de la Turquie, intervient alors qu'un processus de négociation est en cours avec le fondateur du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, en lutte armée contre la Turquie depuis quatre décennies. Hier, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant la mairie de Van et au moins 219 personnes ont été placées en garde à vue. À Ankara, à Nandlower.
Abdullah Zeydan, un membre du parti pro-kurde, avait été élu l'an dernier avec plus de 55% des voix des électeurs de Van. Le 11 février, un tribunal l'a condamné à 3 ans et 9 mois de prison pour propagande et assistance à une organisation terroriste. En l'occurrence, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Ce même PKK que les autorités turques prétendent convaincre d'abandonner les armes. Le chef emprisonné du groupe armé kurde, Abdullah Öcalan, doit prononcer dans les prochains jours un appel en ce sens après des mois de négociations avec les autorités. Tülay Hatimoğlu, co-présidente du parti pro-kurde, accuse le pouvoir de saboter le processus de paix naissant.
Nous posons la question au palais et directement à Erdogan. En nommant un administrateur à Van, votre objectif est-il de dynamiter le processus de dialogue en cours? En cette période où nous discutons d'un processus de paix et où la société nourrit des espoirs, avez-vous pour but de porter atteinte à ce processus de dialogue? Erdogan doit s'exprimer et dire ce qu'il en est.
Depuis le début du processus en octobre, le parti pro-kurde accuse le président Erdogan d'être en retrait et de ne pas soutenir les efforts de paix. C'est paradoxalement son allié du parti ultranationaliste MHP, Devlet Bahçeli, qui avait initié cette démarche, allant jusqu'à laisser entendre qu'Abdullah Öcalan pourrait sortir de prison s'il décrétait, je cite, la fin du terrorisme. Anandlouer Ankara, RFI.
En Colombie, le président Gustavo Petro décrète 3 impôts exceptionnels pour résoudre la crise dans le Catatumbo, région à la frontière avec le Venezuela, théâtre depuis un mois de violents affrontements entre les groupes armés qui se disputent le contrôle du trafic de cocaïne. À Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Les jeux de hasard, le charbon et les hydrocarbures, les actes notariés, toutes ces activités vont payer de nouvelles taxes jusqu'au 31 décembre. Le gouvernement entend investir l'argent recueilli dans la région du Catatumbo, où le 24 janvier dernier, le président Petro a proclamé ce qu'on appelle ici l'état de commotion intérieure. C'est ce qui lui permet de décréter des mesures et des impôts exceptionnels. 8 jours plus tôt, la guérilla de l'ELN avait commencé à assassiner des civils en les accusant de soutenir un groupe armé rival. Plus de 50 personnes ont été tuées, 50 000 autres ont fui leur terre ou leur village. Il y a donc urgence humanitaire dans le Catatumbo, personne ne le conteste, mais les secteurs touchés par les nouvelles taxes protestent. Ils craignent que ces taxes provisoires ne deviennent permanentes. L'opposition accuse Petro de court-circuiter le Congrès pour créer de nouveaux impôts, et ce, alors qu'une réforme fiscale est à l'étude. Elle prévoit un impôt permanent sur les jeux de hasard et, plus compliqué encore à faire passer, un impôt sur les églises. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Enfin, le président argentin Javier Milei, vivement critiqué pour avoir vanté une crypto-monnaie qui s'est ensuite effondrée livrés peu de temps après. Selon des spécialistes, il pourrait s'agir d'une escroquerie de laquelle les développeurs abandonnent ensuite le projet en prélevant les actifs. 10h10 à Paris, restez à l'écoute des RFI.